Chapitre 30. Jamais nuit n'avait paru aussi longue à Dale. Au début, sa terreur se tempérait d'euphorie, mais après le premier tour de garde en compagnie de Mike, seule resta la terreur. Le garçon avait déjà eu peur dans sa vie, très peur même, l'hiver, dans la cave à charbon. Et il n'y avait pas si longtemps, il avait été terrorisé par le rond noir du fusil de C.J. Condon, sans parler du cadavre flottant dans l'eau du sous-sol qui l'avait glacé d'épouvante. Mais ce qu'il ressentait à présent allait bien au-delà. Il avait l'impression de ne plus pouvoir se fier à rien. Le sol allait s'ouvrir pour l'engloutir. Des créatures le guettaient sous la terre. Derrière la légère barrière de branchage, d'autres êtres nés de la nuit l'attendaient avec des yeux morts mais brillants, et si aucun souffle ne s'échappait de leur poitrine, de leur gorge sortait un râle d'impatience. Oui, ce fut une longue nuit. Dès les premières lueurs de l'aube, ils étaient déjà tous réveillés. À 5h30, les couvertures étaient roulées et ils remontaient le sentier. Mike marchait en tête, à 30 pas, et leur faisait signe d'avancer ou de s'arrêter. À une centaine de mètres du camp, ils se mirent de front et, courbés dans l'herbe haute, s'approchèrent lentement, d'arbre en arbre, de buisson en buisson. Ils arrivèrent enfin en vue des tentes, toujours écroulées. Dale s'était presque attendu à tout retrouver en parfait état, comme si la violence de la nuit n'avait été qu'un cauchemar collectif. Mais même de loin, il pouvait voir que les tentes étaient bel et bien effondrées, les toiles déchirées, les vêtements éparpillés, et une hache noircie était à demi enfoncée dans le feu, juste à côté de la chaussure gauche d'Arlène. Leur approche fut prudente. Mike passa par le nord, Dale par le sud, pour former un demi-cercle. Dale était certain que la première chose qu'il découvrirait serait les cadavres. Un dans la clairière où Mike avait touché un des hommes, un autre au bord du ravin. Mais pas de cadavre. Par contre, du sang dans la clairière à l'endroit où l'homme abattu par Mike aurait dû se trouver. Du sang sur les rochers et les buissons du ravin. Du sang encore sur la pente opposée de la petite vallée près de la clôture.
« On en a quand même descendu deux ?» s'écria Arlène.
Mais sa fourfanterie sonnait faux à la lumière du jour, avec le sang qui se transformait en simples taches brunes sur les broussailles et les souches. Il y en avait beaucoup. Et, en pensant qu'ils avaient tiré sur des êtres humains, Dale se mit à trembler de tout son corps. Jusqu'à ce qu'il revît ces mêmes êtres humains lever puis abattre leurs haches sur les tentes où lui et ses copains étaient censés dormir. Ils entrèrent dans la clairière, pressés de récupérer ce qui était récupérable et de quitter les lieux.
« C'est mon père qui va être content !» remarqua Kevin en pliant les lambeaux de sa tente.
« Et ma mère, donc ?» ajouta Arlène en regardant les autres à travers les trous de sa couverture lacérée.
« Toi, au moins, tu peux dire que le vent a emporté ta tente sur une clôture de barbelés, mais moi, qu'est-ce que je vais raconter? Que j'ai fait un rêve bandant et que j'ai massacré ma couverture dans mes élans amoureux ?»«
C'est quoi un rêve bandant ?» demanda Lawrence.
« c'est rien, » répondit Dale. « Ramassons tout ce que nous pouvons et filons. »
Une fois sorti du bois, Dale prêta le Savage à son petit frère, mais garda dans sa poche les munitions. Lorsqu'on l'avait portée pendant une heure, l'arme paraissait lourde. Pourtant, elle était courte et plus légère que beaucoup de fusils. La nuit précédente, Dale avait beaucoup regretté de ne pas avoir apporté le fusil à pompe de son père, même s'il était encombrant. Cela avait failli le rendre fou d'avoir chaque fois à ouvrir la culasse pour recharger. Il se souvenait de Lawrence regardant les yeux écarquillés Kevin et Arlène en train de tirer, appuyés sur un genou. Et il avait encore dans les oreilles la toux sèche du calibre 45 de l'un, la détonation impressionnante du petit calibre 38 de l'autre.
On a vraiment fait ça?
Eh oui, comme en témoignaient les 30 minutes passées à ramasser les cartouches et les balles perdues pour les enterrer à 15 mètres du campement. Ils y avaient joint les duvets, trop abîmés pour qu'ils puissent les rapporter chez eux. Mike récupéra sa bicyclette au passage, mais ils ne rangèrent pas leurs armes avant d'avoir franchi la clôture et d'être presque en vue de la ferme d'oncle Henry. Tante Lena leur proposa un petit déjeuner, mais ils n'avaient pas le temps. Oncle Henry allait en ville et ils se dépêchèrent de jeter leur vélo à l'arrière du camion et d'y grimper. Ils avaient appréhendé le long trajet de retour, mais ils l'effectuèrent en quelques minutes dans un nuage de poussière. Il y avait encore de la rosée sur le maïs et les herbes des bas-côtés.
« Regardez !»
s'exclama Lawrence en passant devant la taverne de l'Arbre Noir. Le cabaret était fermé et ils ne virent même pas la voiture du cabaretier, mais sous les arbres, tout au fond du parking, un camion. Dale aperçut une tache rouge et une plateforme entourée de planches se distinguait vaguement parmi les arbres.
« C'est le camion d'écarissage, non ?»
cria Kevin par-dessus le bruit du pick-up. Ils arrivaient au croisement de Jubilee College Road et le camion rouge n'avait pas bougé.
« Possible ?» répondit négligemment Mike.
Dale agrippa le rebord du camion d'oncle Henry pour maîtriser ses tremblements. Il serrait tellement fort que ses avant-bras lui faisaient mal. Ce n'était pas difficile à imaginer. Cinq garçons fatigués par une nuit blanche, montant, haletant et courbés sur leur guidon la longue côte, puis précédés de la puanteur des cadavres en décomposition, cette monstruosité rouge surgit de nulle part dans un ronflement de moteur et un grincement de levier de vitesse fonçant sur eux dans un nuage de gravillon et de poussière. Les fossés étaient profonds par ici et les clôtures les séparant des bois plutôt hautes. Aurait-il eu le temps de descendre de vélo et de se réfugier parmi les arbres? Et si Van Syke était armé? Ou bien s'il avait voulu les obliger à s'enfuir dans les bois, en direction de Gypsy Lane, justement. À cet instant précis, sur cette route bordée d'une muraille de maïs et déjà écrasée par la chaleur, Dale sut que là-bas, dans les bois, on les avait attendus et on les attendait encore. Ce n'était que grâce à la proposition de son oncle que leur expédition se soldait par un succès mitigé et non par un désastre total. Dale regarda Mike en face de lui. Ses yeux gris étaient voilés de fatigue, mais Dale devina qu'il avait compris lui aussi. Il aurait voulu lui poser la main sur l'épaule, lui murmurer que ça n'était pas grave, qu'il n'avait pas pu tout prévoir, mais ses bras tremblaient si fort qu'il n'osait pas lâcher le camion. Et surtout, il savait que si, c'était grave. Cette erreur aurait pu leur coûter la vie en ce glorieux matin de juillet. Qui était en embuscade là-bas dans les bois? Madame Duggan, morte depuis 8 mois? Toby Cook, tout blanc et tout gonflé? Les longues créatures rampant sous terre, attendant gueule ouverte sous un mince tapis d'humus et de feuilles? Le soldat tel que Mike le leur avait décrit, avec son visage qui s'allongeait comme une gueule de lamproie hérissée de dents? Ils entrèrent en ville sans un mot et firent un geste d'adieu fatigué à oncle Henry lorsque celui-ci les déposa un par un devant chez eux. La nuit tomba un peu plus tôt que la veille, une différence presque imperceptible, mais suffisante pour rappeler à un observateur attentif que les jours avaient déjà commencé à raccourcir. Le coucher de soleil fut d'une grande beauté ce soir-là, comme souvent dans cette région, bien que la plupart de ses habitants y soient presque trop habitués pour le remarquer. Un long moment de sérénité durant lequel le soleil plana comme un ballon rouge au-dessus de la ligne d'horizon, embrasant tout le ciel. Le crépuscule apporta une promesse de fraîcheur et l'approche inévitable de la nuit menaçante. Mike avait eu l'intention de faire un somme dans la journée, il était si fatigué qu'il avait la voix enrouée et les paupières irritées, mais il eut trop à faire. Pendant la nuit, des vandales avaient arraché la moustiquaire de la fenêtre de Memo. Lorsqu'elle avait entendu du bruit, Madame O'Rourke s'était précipitée dans la chambre. Le vent éparpillait les photos et les papiers posés sur la table de la vieille dame, les rideaux se gonflaient comme des voiles, c'est tout ce qu'elle avait remarqué. Memo ne semblait pas blessée, mais elle était si agitée qu'elle clignait frénétiquement des yeux sans pouvoir répondre aux questions. Madame O'Rourke, en voyant les folles craintes de son fils se réaliser, avait pris peur. Elle avait téléphoné à son mari à la brasserie et appelé Barney, qui était venu en pleine nuit. Le policier avait déclaré en se grattant la tête qu'effectivement, il y avait cet été-là un problème de vandalisme dans la région. Puis il avait demandé à Madame O'Rourke si Michael ou une de ses filles avait eu des mots avec C.J. Congdon ou Archie Craig. Madame O'Rourke avait répondu avec indignation que ses filles n'avaient pas le droit d'adresser la parole à ses voyous et que Mike les avait toujours ignorées. Et si cela avait un rapport avec ce qui horrifiait toute la ville, le massacre des chats de Madame Moon? Barney s'était gratté la tête une deuxième fois et avait promis de multiplier ses rondes dans le quartier, puis il était retourné à ses affaires. Le père de Mike avait rappelé pour annoncer qu'il avait réussi à changer de service avec un collègue. À partir de dimanche, il ne serait plus de nuit avant la rentrée. Mike avait réparé la moustiquaire et l'avait remise en place, mais le loquet du rebord de la fenêtre était arraché et le cadre entourant le grillage cassé en 2 endroits. En effectuant ce travail, il avait remarqué une substance gluante de la texture et de la couleur de la morve un peu séchée. Le grillage déchiré la rendait difficile à voir, mais elle était bel et bien là. Il l'effleura et frissonna. Un jour, où il était allé pêcher avec son père dans un affluent de la Spoon, il devait avoir 8 ou 9 ans à l'époque, il avait attrapé une anguille. Ces poissons étaient rares, même dans l'Illinois, et l'enfant n'en avait jamais vu.
En apercevant le long corps sinueux semblable à celui d'un serpent, il avait pensé à un mocassin d'eau et s'était enfui en courant, oubliant qu'il se trouvait dans une barque. Son père l'avait rattrapé in extremis, puis avait ramené la bestiole accrochée à l'hameçon en ordonnant à son fils de tenir l'épuisette. Le petit garçon était à la fois fasciné et révulsé par l'anguille, dont le corps reptilien presque préhistorique luisait, ondulait avec un mouvement liquide, comme une créature extraterrestre. Le poisson était recouvert d'une couche de liquide visqueux, une sorte de mucus sécrété par l'animal, et les longues mâchoires étaient garnies de dents aussi acérées que des lames. Le père de Mike avait attaché l'épuisette le long du bateau afin de garder l'anguille en vie jusqu'au pont où les attendait la voiture. Tout le temps du lent retour à la rame, Mike n'avait pu penser qu'à cette créature de cauchemar qui ondulait juste en dessous de la surface de l'eau. Mais en remontant le bateau sur la berge, ils avaient découvert qu'elle avait réussi à se glisser à travers les mailles du filet. L'épuisette était enduite d'une espèce de gélatine, comme si la peau et la chair de l'animal étaient composées d'une matière semi-liquide. Une matière tout à fait semblable à l'espèce de mucus sur la moustiquaire. Mike la nettoya entièrement à l'alcool à brûler, recolla et réagrafa le cadre du mieux qu'il put, remplaça les parties déchirées du fin grillage et remonta le tout en ajoutant deux targettes, une en haut et une en bas. Il retrouva le morceau d'hostie sous la fenêtre dans le jardin. Le soldat avait dû s'en approcher en pleine nuit, ses doigts avaient certainement coulé entre les mailles de la moustiquaire, son long mufle s'était tourné vers Memo comme une lamproie attirée par un poisson particulièrement appétissant. Avait-il été arrêté par l'hostie et l'eau bénite? Et si le visiteur n'était pas le soldat, mais une autre créature, qui serait venue chercher sa grand-mère en pleine nuit? Mike faillit fondre en larmes. Son plan, si bien préparé, avait été à deux doigts de se terminer en débâcle. Il avait aperçu le camion d'écarissage parmi les arbres derrière la taverne. Il en avait reconnu l'odeur. Et si, comme c'était prévu, ses copains et lui étaient revenus en ville à bicyclette? Cette puanteur aurait été d'ici peu celle de leur cadavre. Alors il comprit. C'était dans une véritable guerre que lui et ses copains étaient engagés. Une guerre semblable à celle à laquelle son père avait participé, mais pire. Car il n'y avait ni ligne de front ni abri, et l'ennemi était maître de la nuit. Après déjeuner, il fit un saut à Saint-Malachy. On était toujours sans nouvelles du père Cavano. Les autorités du diocèse avaient prévenu la police, mais Mme McCafferty lui dit que tout le monde semblait persuadé que le père était retourné chez lui à Chicago. À l'idée que le jeune prêtre, si malade et fiévreux, soit en train d'errer quelque part dans une gare routière, la gouvernante se remit à pleurer. Mike lui assura que c'était impossible. Le père ne pouvait pas être parti chez lui. Il passa chez Arlène chercher une bouteille de vin, de la piquette, mais sa mère ne s'apercevrait même pas de la disparition, la mit dans un sac en papier et retourna au kiosque à musique. Il n'espérait guère obtenir de Mink d'autres renseignements intéressants, mais il trouvait que le vieux clochard avait bien mérité un petit cadeau supplémentaire. Et puis, parler à un homme qui avait été témoin d'événements qui pesaient à présent si lourdement sur sa destinée pourrait lui apporter un certain réconfort. Mink avait disparu. Ses bouteilles, ses journaux, son manteau en haillons étaient éparpillés sur le sol, et on eût dit qu'un typhon très localisé s'était acharné sur son antre. Le sol était percé de 5 trous ronds d'environ 50 cm de diamètre et bordés de rouge, comme si on avait commencé à forer pour trouver du pétrole. « Pourquoi toujours imaginer le pire ?» se morigéna-t-il. « Quelqu'un lui a peut-être confié un petit boulot. Ou bien il boit un pot quelque part avec ses copains. » Mais il ne réussit pas à se convaincre. Que s'était-il passé là-dessous cette nuit ? Mink avait dû se réveiller d'un sommeil d'ivrogne et voir la terre se soulever, renifler une odeur de charnier et découvrir devant lui l'abomination cachée depuis presque 70 ans. Il avait dû sautiller pour esquiver une grande créature blanchâtre et menaçante, surgie de terre comme l'anguille était sortie de l'eau, claquant des mâchoires et cherchant sa proie d'un regard aveugle. Le dernier trou était à moins d'1 mètre de l'entrée et suffisamment éclairé pour que le garçon pût distinguer clairement les parois formées de cartilages et de tendons rouge sang. Il régnait sous le kiosque une puanteur de charogne mêlée à de faibles effluves rappelant l'odeur de Mink. Mike jeta sa bouteille à l'intérieur. Elle atterrit debout au milieu des bouteilles vides, telle une pierre tombale en miniature.
Il s'enfuit et traversa Main Street comme une flèche sous le nez d'un semi-remorque qui klaxonna furieusement. Il n'avait pas l'intention d'assister à la soirée d'anniversaire de Michel Staffney. Vu les circonstances, y songer lui semblait absurde. Mais Dale vint le voir et insista. Il serait plus sage de rester tous ensemble ce soir-là.
Ça finira à 22h après le feu d'artifice. Mais tu pourras rentrer avant si tu veux.
Mike réfléchit. Sa mère et ses sœurs ne se couchaient jamais avant 22h et rien n'arriverait si peu de temps après la tombée du jour. Du moins, rien ne s'était jamais passé à ce moment-là. Le soldat ou qui que ce soit d'autre préférait la fin de la nuit.
« Allons, viens. Il y aura des lumières partout, une foule de gens. En plus, ça nous fera du bien de nous amuser un peu. » « Et Lawrence, il ne veut pas aller chez une idiote de fille. D'ailleurs, il n'est pas invité. Mais maman lui a promis une partie de Monopoly jusqu'à mon retour. » « On ne pourra pas emporter nos armes à la soirée. »
Dale sourit.
« Arlène sera armée. On pourra toujours lui demander son petit pistolet si on en a besoin. On ne peut quand même pas rester jusqu'à dimanche matin à attendre sans rien faire. »
Mike grommela quelque chose.
« Alors, tu viens, hein ? On verra. »
La soirée d'anniversaire de Michel Staffney commençait à 19h, mais une heure et demie plus tard, des parents accompagnaient encore leurs enfants. Comme chaque année, la grande maison et son vaste jardin avaient été transformés en parc de contes de fées, avec des guirlandes d'ampoules de couleurs et de lampions qui allaient de l'entrée aux arbres, des arbres aux tables chargées de chips, de friandises et de boissons, et des tables à la grange tout au fond de la propriété. Des enfants couraient en tous sens, d'autres jouaient aux fléchettes et aux hula-hoop, gravitaient autour du barbecue où le docteur, aidé de deux autres messieurs, faisait cuire et distribuait à la chaîne hot-dog et hamburger, ou bien s'attardaient près des tables recouvertes de nappes en plastique à carreaux rouges et blancs. La musique du tourne-disque sur la véranda de devant attirait beaucoup de petites filles, qui s'asseyaient dans la balancelle, se juchaient sur la balustrade et pouffaient de rire. Les premiers enfants arrivés avaient docilement montré leur invitation, mais une fois qu'ils furent 50 ou 60, la soirée d'anniversaire de Michel Staffney devint, comme à l'accoutumée, une sorte de fête pour tous les gamins du coin, à laquelle venaient aussi bien les frères et sœurs des amis de l'héroïne du jour que des enfants de fermiers auxquels elle n'avait jamais parlé. Toutefois, aux grandes dames des filles agglutinées sous la véranda, les grandes personnes mirent à la porte quelques élèves de l'école secondaire. Même si Jay Congden et son acolyte firent une apparition dans la rue, passant lentement en Chevrolet, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Deux ans plus tôt, le docteur Staffney n'avait pas hésité à appeler les gendarmes pour se débarrasser de Congden et de sa bande. À la tombée de la nuit, la fête battait son plein. Les filles dansaient, essayaient les figures de rock enseignées par les parents ou les grandes sœurs, quelques-unes imitèrent Elvis, jusqu'à ce qu'un adulte leur enjoigne de bien se tenir. Les garçons les plus hardis s'étaient joints à elles, jouant les malins, les bousculant et faisant tout pour les serrer de près sans aller jusqu'à danser avec elles. Dale et Mike étaient arrivés ensemble et avaient été parmi les premiers à faire la queue devant le barbecue. Dale avait mangé en faisant tourner un hula-hoop et ils erraient maintenant dans la foule, se sentant déphasés dans ce bruit et cette agitation. Mike arborait d'énormes poches sous les yeux. Arlène et Kevin les rejoignirent.
« Je viens de voir quelque chose qui nous serait bien utile !» cria Kevin en hurlant pour se faire entendre.
Mike et Dale demandèrent en chœur « C'est quoi ?» Ils s'étaient promis de faire attention à ce qu'ils se diraient en public, mais le bruit était tel qu'ils pouvaient à peine s'entendre eux-mêmes.
« Venez voir !»
Dans un coin de la cour, Chuck Sperling et Digger Taylor faisaient une démonstration de talkie-walkie devant deux groupes de jeunes enfants fascinés.
« C'est des vrais ?» demanda Mike.
« Quoi ?»
« C'est des vrais !»
répéta Mike en criant dans l'oreille de Kevin. Kevin acquiesça en continuant à aspirer bruyamment un coca. Les boissons gazeuses n'étaient pas tolérées chez lui.
« Ouais ! Le père de Chuck les a achetés au prix de gros ! Quelle portée ! À peu près 1800 mètres, d'après Digger ! C'est assez court pour ne pas avoir besoin de permis, mais assez long pour être de vrais talkie-walkie ! Ouais ! Ça nous aurait été bien utile. D'ailleurs, ça pourrait encore nous servir, dit Mike. Et si on essayait de s'en procurer un avant dimanche ?
Arlène s'approcha avec un drôle de sourire tordu. Mike remarqua qu'il avait mis ses plus beaux atours. Un pantalon de laine sombre bien trop chaud pour la saison, une chemise bleue, un nœud papillon et une écharpe propre en soie noire pour soutenir son plâtre.
Tu les veux ?
Je peux me débrouiller !»
Mike se pencha vers lui, renifla.
« Seigneur, Jim, tu as bu du whisky ou quoi ?»
Arlène se redressa d'un air vexé, mais continua à sourire.
« Juste un petit remontant » articula-t-il. « C'est toi qui m'as donné l'idée, mon vieux, en venant chercher ce vin !»
Mike hocha la tête.
« Tu as apporté l'autre truc ?»«
Quel autre truc ?»«
Des fleurs pour l'hôtesse ? Mon paquet de petits machins en caoutchouc pour ma rencontre avec la demoiselle ?»
Dale allongea le bras et tapa d'un coup sec l'écharpe et le plâtre d'Arlène.
« Non, ça, patate !»
Jim ouvrit de grands yeux innocents.
« Oh, ça !»
Il fit un geste pour sortir le calibre 38, mais Mike repoussa précipitamment l'arme entre le plâtre et l'écharpe.
« Tu es bourré, Jim ! Montre ce truc et le docteur Staffney te videra avant même que tu aperçoives la femme de ta vie !»
Arlène joignit les mains et s'inclina gracieusement.
« Bien, Saïb !»
Il se redressa trop rapidement et vacilla un instant avant de retrouver son équilibre.
« Alors, tu les veux, oui ou non ? »
continua-t-il.
« Quoi donc ?»
Mike, les bras croisés, surveillait la rue.
« Les radios ? Si tu les veux, tu les auras, dis-le, c'est tout !»« Dac !»
Arlène fit un autre salut oriental et recula dans la foule en manquant de faire tomber un petit de 7 ans qui s'apprêtait à lancer une fléchette. Il était tard, plus de 21h. Mike s'apprêtait à rentrer chez lui tout seul si Dale et Kevin préféraient rester, quand Michel Staffney vint lui parler alors qu'il finissait d'engouffrer son troisième hot-dog.
« Salut, Mike !»
Mike marmonna quelque chose la bouche pleine, engloutit sa dernière bouchée et recommença sans plus de succès.
« Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein ? Depuis qu'on n'est plus dans la même classe et tout ça ?»«
Tu veux dire depuis que j'ai redoublé ?»
réussit-il à articuler. Mike avait avalé presque tout sans s'étrangler, mais il n'osait pas ouvrir la bouche de peur de crachoter des miettes.
« Oui, c'est ça !» répondit Michel d'un air de Sainte-Nitouche. « Je crois que nos conversations me manquent. »«
Ouais !»
Il ne voyait pas du tout ce à quoi elle faisait allusion. Ils avaient été dans la même classe à partir du cours préparatoire, mais il ne se souvenait pas d'avoir parlé à Michel plus d'une ou deux fois, et encore. Peut-être lui avait-il crié quelquefois « par ici », sur le terrain de sport ou un truc du genre ?«
Ouais !»
répéta-t-il.
« Tu sais, » murmura-t-elle en s'approchant de lui, « nos conversations sur la religion. »«
Ouais !»
Mike avala sa dernière bouchée de hot-dog et souhaita désespérément trouver quelque chose à boire. Maintenant, il se souvenait d'avoir dit à la fillette au cours élémentaire, il jouait alors sur des balançoires voisines, que ça faisait un drôle d'effet d'être catholique quand la plupart des autres enfants ne l'étaient pas.
« Ouais !»
répéta-t-il pour la troisième fois. La fillette était très belle ce soir. « Ravissante !» pensa-t-il. Dans sa robe de mousseline vert pâle, toute gonflée comme un machin truc de ballerine, mais moins courte, et ses longs cheveux roux étaient retenus par un bandeau vert. Elle avait les yeux verts de très longues jambes. Il la trouvait changée depuis ces derniers mois ou peut-être même ces dernières semaines. Son corsage était plus rond et ses jambes différentes, ses hanches aussi. Et quand elle leva le bras pour arranger son bandeau, il remarqua de fins pointillés au creux de son aisselle.
Elle se rase là, comme Peg et Mary. Et les jambes aussi.
Michel venait de lui dire quelque chose.
Pardon ? Je disais que je voudrais te parler un peu plus tard. J'ai quelque chose d'important à te dire.
Bien sûr. Quand ?
Il s'attendait à une réponse du genre le mois prochain.
Disons, dans une demi-heure ? Dans la grange ?
Elle désigna du geste le grand bâtiment au fond de la cour. Mike se retourna, regarda la grange, cligna des yeux et hocha la tête comme s'il la découvrait pour la première fois.
Ouais.
Michel s'était déjà éloigné, circulant gracieusement parmi la foule.
Peut-être qu'elle va tous les inviter dans la grange.
Mais il ne le croyait pas vraiment. Il retourna vers le barbecue, il n'avait plus du tout envie de partir maintenant. Sa mère et ses sœurs étaient encore debout, elles veillaient sur mes mots. Si seulement Arlène avait apporté du whisky ou du vin plutôt que ce pétard grotesque. Comme la plupart des garçons d'Elmhaven, Mike en pinçait pour Michel Staffney depuis toujours.
Mais à la différence des autres, et peut-être parce qu'il avait redoublé, et donc, dans son esprit, démérité aux yeux de tous, il n'était pas obsédé par elle. Il était plus facile de l'ignorer quand on ne la voyait pas tous les jours. Mais maintenant... Pauvre Arlène, se dit-il avec un petit pincement au cœur en pensant au nœud papillon. Puis, qu'il aille se faire foutre. Comme Mike n'avait pas de montre, il passa la demi-heure suivante auprès de Kevin, dont il levait de temps en temps le poignet pour regarder l'heure. Il aperçut Donna Lou Perry et son amie Sandy dans un groupe de filles sur la pelouse, et il eut envie d'aller lui parler, de lui présenter des excuses pour la partie de baseball, torse nu contre t-shirt, du mois dernier. Mais elle riait et bavardait avec ses amis, et il ne lui restait plus que 8 minutes. La grange ne faisait pas partie du territoire ouvert aux invités, et le grand portail était cadenassé. Mais il y avait une petite porte sur le côté dans l'ombre d'un gros chêne. Mike souleva le crochet et entra.
« Michel ?»
Cela sentait la paille et le bois surchauffé par le soleil. Il allait appeler une autre fois quand il pensa que c'était une farce. Michel n'avait pas la moindre intention de lui parler, elle le taquinait sans doute, comme ce pauvre idiot d'Arlène. Et maintenant ce pauvre idiot de Mike. Il s'apprêtait à ressortir lorsqu'il entendit la douce voix de Michel.
« Ici ? En haut ?»
D'abord, il ne vit pas d'où la fillette lui parlait, puis il aperçut une échelle qui devait mener à un grenier à foin. Le plafond de la grange se perdait dans l'ombre, 10 mètres plus haut.
« Monte, bêta !»
Mike grimpa à l'échelle en serrant dans sa main le petit flacon d'eau bénite glissé dans sa poche avant de partir.
Hey, « Eh, c'est un flacon d'eau bénite que tu as dans ton froc ou bien tu es vraiment content de l'avoir ?»
Le fenil était sombre et jonché de paille. Mais une faible lumière provenait d'une porte ménagée dans la cloison, séparant la vieille grange du garage, au-dessus duquel le docteur Staffney avait aménagé une petite pièce. Michel, appuyé au chambranle de la porte, lui souriait.
« Entre !»
dit-elle timidement en reculant pour le laisser passer.
« C'est mon cabinet secret. »
Les lumières de la fête entraient par 2 petites fenêtres et formaient autour de ses cheveux un halo lumineux. Mike entra, plus intéressé par la chaude proximité de la fillette que par la petite pièce sous le toit, meublée d'un bureau, de quelques vieilles chaises et d'un sofa.
« Tu sais pourquoi ce mois est très important pour moi, Mikey ?»«
Mikey ?»«
Parce que c'est ton anniversaire ?»« Eh oui. »
La fillette s'approcha. Mike sentait son odeur de savonnette parfumée et de shampoing. La peau pâle de ses bras était un peu rosie par la lueur des ampoules colorées dans les branches au-dessus de l'arbre, dehors.
« Le 12e anniversaire, c'est important, »
chuchota-t-elle.
« Mais il y a autre chose qui arrive à une fille, et qui est encore plus important, si tu comprends ce que je veux dire. »«
Bien sûr. » Il ne voyait pas du tout où elle voulait en venir. Elle fit un pas en arrière et posa son index sur ses lèvres, comme si elle se demandait si elle allait, oui ou non, lui confier un secret.
« Tu sais que tu m'as toujours plu, Mike ?»«
Non. »«
C'est vrai pourtant. Tu te rappelles quand on était au cours préparatoire ? On jouait au papa et à la maman ?»
Mike avait un vague souvenir d'avoir joué avec les filles au début de sa scolarité, mais il avait vite appris que ça ne se faisait pas.
« Bien sûr !»
répondit-il avec un enthousiasme fin. Elle pivota sur elle-même comme une danseuse.
Et moi, je te plais, Mikey ?
Bien sûr. Qu'était-il censé répondre ? Tu ressembles à un crapaud ? Non, il la trouvait jolie, il aimait son parfum, la chaude émotion de se trouver en sa compagnie, si différente de l'angoissante tension de ces derniers jours.
Ouais. Tu me plais.
Michel hocha la tête comme s'il avait prononcé le mot magique, puis recula, s'arrêta devant la fenêtre et ordonna
« Ferme les yeux !»
Mike n'hésita qu'un instant. Il y eut un froissement et Michel murmura
« Voilà !»
Mike ouvrit les yeux et crut recevoir un coup de poing en plein plexus solaire. Michel Staffney avait retiré sa robe de fête et ne portait plus qu'un soutien-gorge et un petit slip blanc. Jamais de sa vie le garçon ne l'avait regardé avec une telle attention. Les épaules pâles, les taches de rousseur dorées sur les bras et le décolleté,
le léger renflement du sein au-dessus du soutien-gorge, le diadème de cheveux laissant filtrer la lumière, les longs cils contre la joue. Il serra les dents en remarquant la courbe de la hanche, la rondeur de la cuisse, les minces chevilles avec les petites soquettes blanches. Elle s'approcha de lui et il vit qu'elle rougissait.
« Mikey, j'ai pensé que nous pourrions, tu sais, juste nous regarder »,
murmura-t-elle très bas. Elle s'approcha plus près. Il aurait pu la prendre dans ses bras s'ils avaient accepté de lui obéir. Elle posa sa main fraîche contre la joue brûlante de Mike.
« Quoi ? »
demanda-t-il d'une voix trop forte.
« Je viens de te le dire. Si tu enlèves ta chemise, j'enlèverai autre chose. »
Avec l'impression de se regarder agir sur un écran, il passa sa chemise par-dessus sa tête et la jeta sur le sofa derrière lui, réussit à passer les bras autour de Michel et tourna légèrement le dos à la lumière, le visage à 2 mètres de l'autre fenêtre. Sur la pelouse, des invités chantaient.
« À mon tour !»
Il pensait que la fillette allait enlever ses chaussettes, mais en un geste qui lui coupa le souffle tant il était érotique et féminin, elle décrocha l'agrafe de son soutien-gorge qui tomba à leurs pieds. Mike ne put s'empêcher de baisser les yeux. Ses seins étaient très blancs, avec des mamelons encore tout petits au milieu de l'aréole rose. La fillette, soudain intimidée, mit un bras sur sa poitrine et tendit son visage vers Mike. Avec un coup au cœur, celui-ci devina qu'elle allait l'embrasser. Elle lui effleura les lèvres, se retira légèrement, le regarda d'un air interrogateur et l'embrassa de nouveau. Mike la serra contre lui, sentit son excitation monter, se demandant si elle la remarquait aussi, mais il ne bougea pas. Il pensa à la confession, à l'ombre du confessionnal, aux questions posées d'une voix douce. Il ressentait le même émoi que lors de ses péchés solitaires, mais ce n'était pas du tout pareil. Ce feu qui l'enflammait tandis que le baiser se prolongeait, son excitation, son érection douloureuse contre le caleçon et le jean raide, le désir de Michel, communiqué par de très faibles mouvements de ses hanches et de son bassin, tout ceci appartenait à un monde différent de celui des péchés et des fantasmes avoués dans le confessionnal. Ils tombèrent à genoux, s'arrangèrent pour s'allonger sur les coussins du sofa sans que jamais leurs lèvres se séparent. Quand elles se désunirent, Mike sentit le souffle de Michel dans son oreille droite et s'émerveilla de la perfection avec laquelle la courbe de sa joue s'encastrait contre son propre cou. Il perçut le goût de ses cheveux sur ses lèvres, l'écarta doucement et ouvrit un instant les yeux. Tout près de lui, à moins d'un mètre, le père Cavano le regardait avec des yeux morts à travers l'étroite fenêtre encastrée dans le mur. Il eut un sursaut et recula, se cognant contre le sofa. Le visage livide et les épaules noires du père paraissaient flotter derrière la vitre. Il avait la bouche grande ouverte, la mâchoire inférieure pendante comme celle des cadavres dont personne n'a pensé à attacher le menton. Des filets de salive coulaient de ses lèvres. Ses joues et son front étaient avelés de ce que Mike prit d'abord pour des cicatrices, mais c'étaient des petits trous ronds d'un bon centimètre de diamètre. Ses cheveux se dressaient en un buisson emmêlé, ses lèvres noires se retroussaient sur de grandes dents. Il avait les yeux ouverts, mais aveugles, d'un blanc laiteux, et ses paupières battaient follement comme celles d'un épileptique en pleine crise. Pendant un instant, il se dit que quelqu'un avait, à l'aide d'un fil de fer autour du cou, pendu le cadavre du prêtre dans les arbres, mais la mâchoire remua lentement de haut en bas, et il entendit un bruit de cailloux roulant dans une boîte fermée. Les doigts crochus griffèrent le carreau. Michel entendit aussi le grattement. Elle s'écarta et, se couvrant la poitrine de ses bras, se retourna. Elle dut apercevoir quelque chose à l'instant où la figure et les épaules noires du cadavre descendirent, comme mues par un mont de charge. Mike posa la main sur la bouche de la fillette pour l'empêcher de crier.
« Quoi ? »
balbutia-t-elle dès qu'il la lâcha.
« Rhabille-toi !»
murmura Mike en se demandant si les battements de cœur qu'il entendait étaient les siens ou ceux de la fillette. Il y eut un second grattement, mais tous deux dégringolaient déjà l'échelle.
« Qu'est-ce que c'était ?»
chuchota Michel en arrivant à la porte. Elle arrangeait les bretelles de sa robe de fête en pleurant sans bruit.
« Quelqu'un nous espionnait !»
Il chercha du regard une arme, une fourche par exemple, ou une bêche,
mais il n'y avait sur les murs nus que quelques vieilles courroies de cuir. Obéissant à une impulsion soudaine, il se pencha, embrassa doucement la fillette, puis ouvrit la porte. Ils sortirent de l'ombre du chêne. Personne ne remarqua leur retour.